sur le propre de l'homme, selon Rabelais, faire rire, c'est faire oublier, dit Hugo, de tout, mais pas avec tout le monde, dixit des proches, une journée sans rire est une journée perdue, Chaplin. Bref, vous voyez le programme.
Pascal Paradou.
Un théâtre où l'on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire, dit aussi Bertolt Brecht, cité par Jean-Michel Ribes, auteur, metteur en scène, réalisateur, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, personnalité incontournable du théâtre français, qui depuis 50 ans de carrière s'impose sur la scène de son propre théâtre, mais aussi sur les scènes extérieures, et qui se raconte dans un livre écrit avec la journaliste Fabienne Pascaud, intitulé « Issue de secours ». Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Quelle est votre définition du rire ?
Le pape a donné une assez belle définition du rire il y a peu de temps, le pape François, il a dit, c'est ce qui se rapproche le plus du divin. Je trouve ça pas mal.
Vous avez fait du rire votre programme de vie.
Le rire de résistance, hein, parce qu'il y a un rire collabo aussi. Moi, je parle du rire de résistance, de celui qui aère, celui qui libère, celui qui est un acte d'oxygénation, qui écarte comme ça l'esprit de sérieux, étouffant, cholestérol de l'imaginaire, qui nous empêche de vivre, les certitudes, les gens qui savent, etc. C'est vrai que c'est une petite fenêtre sur des horizons oxygénants.
Et vous êtes d'accord avec des proches qui disaient on doit rire de tout, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ?
Non. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est pas n'importe qui peut faire rire de tout. C'est ça, je crois.
Il faut avoir quelle qualité pour faire rire ?
Faut avoir déjà un petit peu de vis comica, qui est une chose un peu innée, mais faut avoir surtout la sensation que ce qu'on dit ou qu'on fait rire n'a pas quelque chose, je dirais, d'insultant ou de méprisant pour ceux, en tout cas, qu'on respecte.
Donc il faut aimer les hommes et les femmes, hein, ça va de soi.
Pas tous.
Pas tous.
Non, pas tous. Non, il y a une quantité de personnes et de personnages qui sont détestables et dont il faut rire. Et d'ailleurs, ces personnes-là, en général, qui sont très des gens, en général, dictateurs, etc. Vous savez, il y a Staline qui disait une chose formidable. Il avait tellement peur de la moquerie et tout ça qu'il disait « un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour », ce qui est quand même une phrase insensée.
Alors, ce livre qui fait votre actualité, Jean-Michel Ribes, contient un certain nombre d'aphorismes, de citations. C'est aussi un peu le catalogue raisonné de votre œuvre théâtrale où chaque création est documentée avec des textes et des images. Alors, je ne les ai pas comptés, mais le livre fait 300 pages.
Il y a un peu près, plus.
Un peu plus.
350.
350. Il y a à peu près deux pages par création. Ça fait quoi ? Une centaine de créations, 50 ans ?
Non, il y en a plus, parce que si on compte le cinéma, la télévision, etc., non, il y en a plus, je ne sais pas compter, mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai un côté, quand on s'arrête de pédaler, on tombe, donc j'ai essayé de ne pas tomber, et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté, c'est vrai que de passer du cinéma au théâtre, du théâtre à l'écriture, à la littérature, etc., c'est très revigorant, et il faut arrêter de dire qu'on a 25 casquettes, parce que c'est toujours la même chose, on écrit des choses pour que des acteurs le jouent, voilà, alors que ce soit devant une caméra ou sur scène, etc., on est quand même dans la même cour de récréation.
Oui, ce sont des formes différentes.
Ouais, ouais.
Alors, il y a dans ce livre aussi quelques photos personnelles, dont la première avec le général de Gaulle.
Ouais.
Ça, c'est quand même assez étonnant.
Oui, surtout que je devais avoir 6 mois, 8 mois, j'étais dans les bras de ma mère et il était venu voir mon grand-père dans les Pyrénées parce que mon grand-père était un résistant qui faisait passer comme ça tous les résistants en Espagne, en douce, pour qu'ils échappent aux nazis. Et il était venu le saluer, après la guerre, etc. Et voilà. Et comme j'avais l'impression qu'il n'avait pas dit dans ses mémoires qu'on était les deux seuls à regarder la photo, je voulais que ce soit dit.
Et on en revient à l'idée de résistance. Alors, je ne sais pas si De Gaulle avait beaucoup d'humour. Mais en tout cas, c'était un grand résistant.
Ah, il en avait de l'humour. Ah, oui, il en avait de l'humour.
Vous en souvenez ?
Comment ?
Vous en souvenez ?
Non, mais je, comme tout le monde, ces conférences de presse, étaient, quand j'étais jeune, petit, c'était une jubilation pour moi. D'abord, c'était un grand acteur, et puis ces mots, vous savez, quand tout d'un coup, il décore des gens, et puis des officiers, puis tout, enfin, il salue plutôt une série d'officiers en brochette, puis il y en a un qui n'a pas de décoration et qui lui dit « Alors, on ne sait pas coudre ?» Voilà. Enfin, non, c'était quelqu'un qui avait de l'humour. Vous savez, je pense d'ailleurs que humour est très proche d'humanité, en vérité.
Résister, est-ce que c'est proche de s'engager ?
Résister, en tout cas, c'est proche de créer. Ça, c'est sûr. Résister, ça veut dire que on sort d'une espèce de consensus, on sort d'une espèce de formatage. Et donc, à partir du moment où on brise ça, bah, on crée. Je veux dire que, heureusement qu'il y a quelques peintres, pour ne citer que des exemples connus, qui ont décidé de plus peindre comme Léonard de Vinci. Ça a donné Bacon, Picasso, etc. Sinon, on en serait toujours là. Donc, c'est créé. S'engager, oui, s'engager dans la mesure où on brise, où on brise l'ordre établi.
Est-ce que vous définissez Jean-Michel Ribes comme un auteur, un artiste engagé ? C'est un mot qui n'a plus vraiment la cote aujourd'hui, hein, chez les artistes en tout cas. Et on sait très bien que les positions des artistes ne sont pas forcément entendues par l'ensemble de la société.
Oui, ça c'est un débat. Moi, je suis avant tout, avant d'être un artiste, je suis un citoyen, un homme. Donc je parle comme n'importe qui dans la rue, c'est tout. Il se fait que de temps en temps, je suis invité dans de très bonnes émissions comme à Radio France Internationale, par exemple. Mais j'aime bien dire des choses. Non, la seule chose que j'ai fait de franchement engagé, parce que j'en pouvais plus de Sarkozy, mais je n'en pouvais plus, j'avais honte. D'ailleurs, c'est lui qui m'a rappelé que j'étais français, parce que j'étais plutôt un citoyen du monde, comme ça sent. Parce que j'avais honte de l'être, quoi. Et c'est vrai que j'ai écrit un opéra bouffe qui s'appelait René l'énervé avec mon ami à la composition musicale Reinhard Wagner. Bon, c'était pas méchant, mais là j'ai voulu raconter quand même ce quinquennat. Il était encore président de la République.
Et vous étiez très 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 énervé.
Oui. Moi, j'étais pas énervé, mais lui était énervé. Et je regrette d'ailleurs que Sarkozy soit pas venu le voir parce qu'il aurait été sympathique.
Alors, vous pratiquez l'humour Jean-Michel Ribes, vous aimez aussi la musique, souvent présente dans vos spectacles. Alors, musique, Clara Luciani, nouveau single, comme l'on dit en français dans le texte.
Ma sœur, nous avons des cœurs siamois, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
J'y crois, personne.
Clara Luciani sur RFI, ma sœur. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que vous écoutez, Jean-Michel Rive. Vous êtes plutôt musicole et opérette, en tout cas dans vos spectacles.
Oui, enfin, j'aime beaucoup, sauf que Offenbach est un génie. J'avais monté Le Pont des Soupirs. Et d'ailleurs, dans ce livre qui s'appelle « Issue de secours », admirablement écrit par Fabienne Pascot, qui est quand même une pointure pointue. Les deux, dans l'art
de la critique théâtrale.
Oui, mais je trouve qu'elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle n'a pas fait que des choses élogieuses sur moi, mais elle est courageuse. Et donc, oui, non, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup. Oui, je dois dire que Offenbach est un enchantement, mais je suis un fanatique de jazz. Je connais tous les jazzmen du monde et j'aime beaucoup aussi certains chanteurs français.
Jean-Michel Rive, aujourd'hui notre invité dans De Vive Voix pour son livre « Issue de secours ». Alors c'est un titre qui pourrait mériter explication parce qu'en principe l'issue de secours dans un théâtre, c'est la porte que l'on ne prend pas ou que l'on ouvre vraiment en cas d'urgence. Pourquoi avoir choisi cette direction-là ?
Je pense qu'il y a urgence, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment s'en sortir, il faut trouver une issue de secours ou au moins l'inventer. Issue de secours, c'est simplement quand on étouffe, quand on est formaté, quand on ne sait plus où aller, il n'y a pas d'issue de secours. Souvent, la société, souvent, est bloqué dans des lois, dans des bons sentiments, du bon sens unique. Et c'est vrai que tout d'un coup, je crois que nous, gens de théâtre, on est là pour offrir des issues de secours, pour trouver de nouvelles planètes, de nouveaux horizons, en tout cas un oxygène qui tendrait à manquer dans la société.
Pour vous, le théâtre a été une issue de secours ? Quand vous étiez jeune homme?
Complètement. Moi, j'étais tout à fait pas éduqué, enfin éduqué si, mais j'étais pas équipé pour la réalité, pas du tout. Moi, ça a été la possibilité de trouver un autre langage, je comprenais pas tout ce qui se passait, etc., de trouver une autre manière de m'exprimer. D'ailleurs, d'une certaine manière, quand je vois les brèves de comptoir aujourd'hui avec Goriot, avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles là-dessus, les brèves de comptoir, c'est de la même chose. C'est des gens qui ne peuvent pas parler, donc qui inventent un autre langage, qui tout d'un coup dit le monde autrement, d'une manière irrésistible. Mais c'est cette manière de réinventer les choses. Oui.
Et ça vous a permis de sortir aussi de la solitude et de l'ennui. En tout cas, c'est ce que dit Fabienne Pascot dans le texte de ce livre.
La solitude, c'est sûr. J'avais même écrit... cette petite phrase qui est vraie, écrire une pièce me fait du mal, mais la montée me guérit. La montée, c'est d'être avec des gens. Et ça, c'est vrai que l'art collectif qu'est le théâtre, c'est assez magnifique.
Comment vous écrivez, Jean-Michel Rive ? C'est une question que l'on pose à beaucoup d'écrivains. Je sais que vous n'aimez pas le mot d'écrivain, vous préférez le mot d'auteur.
Mais... Oh, c'est pas une obsession quand même.
Alors, comment vous écrivez ?
À la main.
À la main, vraiment ?
Ouais. Ah oui, j'ai jamais écrit... un mot sur un ordinateur, j'écris à la main, à l'encre, avec une plume que je trempe. C'est-à-dire que j'écris finalement presque comme écrivait Molière, sauf que j'écris un peu mieux.
Et vous dites qu'il faut se mettre le matin en état d'idiotie pour écrire. Ça veut dire quoi, se mettre en état d'idiotie?
Vous savez, l'idiotie, c'est ce magnifique livre de Sartre, L'idiot du village, qu'il a écrit sur Flaubert. C'est-à-dire que c'est cette capacité à s'extraire du monde. L'idiotie, l'idiot du village, c'est quelqu'un qui n'entend plus les influences de tout. Et l'état d'idiotie permet, je trouve, de sentir et de revenir à quelque chose de plus essentiel, original, etc. Je dis pas l'imbécile, mais l'idiot est d'une certaine manière, enfin, je veux dire, pardon de cette comparaison absolument modeste, mais Rimbaud est un idiot. Et c'est pour ça, tout d'un coup, qu'il dit « Ah, noir ». C'est pour ça, tout d'un coup, qu'il ressent le monde autrement, qu'il est protégé des miasmes d'une société qui, souvent, vous pollue.
Et les titres de vos spectacles, ils viennent dans cet état-là d'idiotie, avec peut-être un sentiment de rapidité, parce que quand même, vous avez l'art du titre, Jean-Michel Rive. L'une de vos premières pièces s'appelait « Les fraises musclées ». Après, il y a eu « Je suis un steak »,« L'Odyssée pour une tasse de thé », ou encore « Théâtre sans animaux », qui pourrait presque paraître sage par rapport au précédent, mais qui est quand même un titre qui claque.
Pas qui claque, je sais pas, tant mieux. C'est-à-dire que les titres, ils sont exactement comme, puisque vous me demandez comment j'écris, je sais pas très bien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que je suis très incapable de lire un journal, de dire « Ah !» formidable, ce type qui a tué 3 enfants et après qui a mangé son chien, voilà une bonne histoire, on va faire quelque chose avec, etc. Incapable. Tout ce qui est... Par contre, dans les embouteillages, lieu merveilleux de création. J'adore les embouteillages parce que je commence à rêver et tout d'un coup, j'entends une réplique, une voix, puis c'est quelqu'un, c'est pas Jeanne d'Arc, mais enfin, qui répond. Et tout d'un coup, un personnage m'amuse, cocasse, je le suis. Il répond, je le suis, il répond. Et dès que ça devient moral ou que le sens apparaît, j'arrête. C'est-à-dire, je me fais embarquer, je suis un peu parlé. Alors, c'est comme un nuage, si vous voulez, qui se remplit, puis tout d'un coup, il pleut. Donc, ça me dégouline dessus. Alors, vraiment, ce nuage, il vient d'où? Il vient d'une société, il est rempli de toute la société. Donc, quelque part, ça raconte ça. Mais c'est comme, je me laisse entraîner. C'est mes personnages qui me guident.
Un titre, le sens de la réplique, une ironie mordante, des acteurs souvent truculents. L'un de vos grands succès fut, par exemple, en 2004, Muséo. Musée bas.
J'aime pas les musées, j'aime l'ambiance des musées. Comme les croissants. J'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. Et Tolérance, elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui Milo? Un nain? Ah, je suis déçu, Laurence, déçu. Ben, on va quand même faire une photo pour Jacques, mais on la fera grandir. Monsieur, elle est obligée. Elle est trop minus.
On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis.
Un guide, pourquoi faire?
Pour expliquer, je comprends rien.
Mais il n'y a pas à comprendre, Josette, il y a à ressentir.
Mais je ressens pas, ça fait une heure que je ressens pas, c'est long.
Musée au musée bas, c'était Jean-Michel Ribes, une succession comme ça de scènes plus caustiques les unes que les autres dans un musée. En fait, vous moquez un peu du bon goût. Je dis pas des gens, hein, mais du bon goût qui oblige à aller dans un musée, à s'extasier.
Écoutez, ce qu'on dit dedans, moi surtout je m'amuse. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, je m'amuse. Et c'est vrai qu'il m'avait semblé que dans un musée, c'était un lieu absolument polymorphe. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez les Égyptiens à côté de la peinture italienne, à côté de la sculpture grecque, à côté des chiottes, à côté ensuite de la cafétéria qui repart sur l'art contemporain. Donc, il y a une capacité à mélanger les réactions, etc. Et surtout, il y a non seulement les visiteurs, mais il y a aussi les gens qui travaillent dans un musée. Ça doit être, et c'est vrai que être à côté d'un chef-d'œuvre comme les gardiens le font 24 heures sur 24, c'est épuisant. L'art est épuisant quand il use, quand la Vénus de Milo ou autre, ça use. Donc, il y avait des tas d'endroits que je trouvais passionnants pour dire les choses. Et puis surtout, c'était quelque chose qui disait que la nature suit l'art et pas le contraire. C'est-à-dire, est-ce que les arbres étaient beaux avant Corot les ait peints, je ne suis pas sûr. Donc c'était aussi une défense de l'art, de la nature, de l'art et de pas, et cette espèce de agenouillement devant la nature comme étant la chose la plus belle, je pense qu'elle a été découverte parce que les artistes l'ont montrée belle. Duguesclin, quand il se baladait dans une forêt, il n'était pas ébloui par un coucher de soleil sur les pins.
Donc en fait, votre théâtre part de la réalité et il la détourne. Il la fait voir autrement.
Peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est de pas être dans les chemins piétinés, parcourus, et autrement ça sert à rien. Autant rester ou autant s'asseoir sur un banc et regarder les gens qui passent. En plus, c'est gratuit.
Alors, on ne peut parler de votre parcours, Jean-Michel Ribes, sans évoquer Roland Topor, dont vous avez été très proche. Alors, je ne sais pas si c'était votre alter ego, si vous étiez son élève et lui un maître ou son complice. En tout cas, Topor disait ceci à Jacques Chancel.
Il y a souvent des tables rondes sur l'humour qui sont sinistres, vous savez. Une fois, j'étais à une table ronde sur l'humour, la dernière fois, et j'ai brusquement eu la révélation que finalement l'humour c'était pas du tout mon truc, il y avait des spécialistes qui en discutaient, mais moi c'était le déconnage.
Qu'est-ce que vous appelez déconnage?
Mais justement,
c'est un mot savant.
Je trouve
vous,
ça très bien parce
c'est
que c'est
une science.
Parce que si quelqu'un le définit, on peut toujours faire une bêtise et c'est lui qui est ridicule parce que c'est moi qui déconne. Alors je crois que c'est beaucoup plus proche de mon sens de l'humour, si vous voulez, à moi, de ma conception, que l'humour lui-même. J'ai dit beaucoup de conneries. Parce que je pense
mais
que
vous le dites,
ça fait partie du droit sacré des individus de dire des choses bêtes, vous savez.
Jean-Michel Ribes, est-ce que vous êtes vous aussi un déconneur, comme l'était
Topor? Oui, déconneur comme l'était Roland, qui était ni un alter ego, ni un maître ou un élève, etc., qui était une sorte de frère, qui était une sorte de rencontre immédiate, quoi. Je veux dire que quand on écrivait ensemble, quand j'allais chez lui, on écrivait, on avait écrit des pièces en 8 jours, bataille, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une immédiate, un ping-pong immédiat, vous dire pourquoi, vous dire comment, est-ce que c'était Montaigne et la Boétie, je ne sais pas, parce que c'était lui, parce que c'était moi, peut-être. Mais c'était quelqu'un, en effet, qui m'a aidé à vivre et que je pense avoir aidé à respirer.
Topor, dont vous continuez à mettre en scène les textes, un peu plus de 20 ans après sa disparition, parce que dans votre histoire, Jean-Michel Ribes, ce sont les auteurs contemporains qui comptent. Oui, vous avez monté Molière, je crois, c'était au lycée, à l'adolescence, et après, ça s'est terminé.
Mais non, mais moi, je suis à genoux devant Molière, c'est pas ça le problème. Je crois simplement que, d'abord, je ne monte plus les textes de Topor parce qu'il n'est plus là au rond-point, on ne fait que les auteurs vivants, les auteurs avec qui on peut dîner après la pièce. Cela dit, on fait une chose encore plus forte, on a fait un prix Topor chaque année. Le prix Topor qui est réservé aux artistes éloignés des chapelles du bon goût et des formes définitives, de morale en particulier. Donc on a fait ce prix qui marche très bien, qui est repris sur FR3 Île-de-France. Et oui, voilà, non, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas de la provocation, mais... On dérange tellement de gens se dérangent pour venir au théâtre, que la moindre des choses, c'est qu'on les dérange un peu à notre tour, c'est qu'on les fasse aller ailleurs. C'est-à-dire que si les gens vont être uniquement calés, ils ont des tas d'endroits où aller, des tas d'endroits où tout est normal, sans problème. Bon. Ce qui est intéressant, c'est quand même de leur montrer autre chose. Vous savez, moi, je dis toujours, au rond-point, je ne programme pas ce que les gens aiment. Je programme ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. C'est-à-dire, il y a un effet de surprise et de découverte. Et ça, j'aime beaucoup, voilà.
Et cette façon de déranger le monde, c'est dans les auteurs contemporains qu'on la trouve. On ne peut pas la trouver dans Molière, pour rester sur Molière.
Oui. Bien sûr que oui. Molière, quand il a fait Tartuffe, c'était un scandale bien plus important que quand on a fait Golgotha Picnic avec Rodrigo Garcia et que les hordes de Civitas sont venues se jeter sur le rond-point en criant « Pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan ». Les paroles étaient pas mal, mais ils chantaient faux. Et protégé par des cerfs. Non, Molière était quelqu'un qui a scandalisé, etc. Le mariage de Figaro a été une brèche qui a amené tout droit à la révolution. Etc. Tous les artistes. La farce de Maître Patelin a dérangé des gens. Je veux dire,
donc il faut continuer à déranger avec des auteurs.
Mais c'est pas déranger, on est là pour sortir du ronron.
Alors, ce qui est formidable et que les auditeurs de RFI ne savent pas forcément parce qu'ils vivent un peu loin de Paris, c'est que le théâtre du rond-point que vous avez pris en main en 2001 n'existait quasiment plus. Ça avait été le grand lieu des Renaud Barreau, mais devenu comme ça une friche industrielle et que vous en avez fait un des points centraux de la vie parisienne. On peut le dire comme ça, sans.
On peut le dire comme vous voulez. En tout cas, on a montré, c'est pas une réussite personnelle, c'est la réussite du public qui a montré que il n'était pas comme ça, une bande de veaux qu'on a tellement décrit. C'était des gens curieux, c'est des gens qui étaient en appétit de voir des choses nouvelles, etc. Bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde adore James Thierry. Il a quand même commencé au rond-point, bon, etc., etc. Il y a plein de gens.
Le petit fils de Chaplin.
Oui.
Ouais. Alors, on parlait d'écriture, Jean-Michel Ribes, on parlait de langue tout à l'heure. Je vous propose de retrouver Pierrette Crouzet-Dora, qui est la chef de la mission du développement et de l'enrichissement de la langue française de la DGLF, qui tient chronique chez nous une fois par mois.
En bon terme.
Moi, je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot.
Interprète.
Ça simplifiera les autres définitions.
Interprète.
Bonjour Pierrette.
Bonjour Pascal.
Alors, que vous inspirent ces échanges avec Jean-Michel Ribes ?
Eh bien, que le vocabulaire du monde du spectacle est anglicisé, comme presque tous les autres. Et donc, la commission d'enrichissement publie régulièrement des termes et des définitions pour que les professionnels du show business digèrent les innovations en bons termes, clairs et compréhensibles pour tous les publics.
Par exemple ?
Eh bien, prenons One Man Show. Sous la pression des femmes, qui elles aussi sont montées sur les planches, il est aujourd'hui couramment féminisé. Et on dit un one-woman show.
Mais ça reste un anglicisme.
Voilà. Alors les experts ont défini sans difficulté ce one-woman show, ou le stand-up aussi en anglais, comme un spectacle de variété assuré par un artiste seul en scène. Et ils se sont accordés sur le terme seul en scène ou spectacle solo. Pascal, dites-moi comment passe-t-on de « je suis seul en scène » à « je fais un seul en scène » ?
Logiquement.
Oui, mais c'est un procédé qui s'appelle la substantivation.
Substantivation.
Oui, ça n'est pas la substantiation, la transsubstantiation, c'est la substantivation, c'est-à-dire qu'un adjectif devient un substantif. Je vois que vous adorez apprendre. Alors, ces termes ont été publiés en 1985. Où en sont-ils aujourd'hui ? Promenons-nous sur Internet et avant d'interroger Jean-Michel Ribes, voyons qui utilise l'anglicisme et qui le terme français. Les plateformes de réservation Ticketac.com vous invite à réserver le One Woman Show de Christelle Solet ou le One Man Show de Haroun, ainsi que le stand-up de l'inclassable Tony Saint-Laurent, une vanne toutes les 10 secondes.
Donc en boycott.
Sur Billet Duc, sortez maintenant, vous avez les deux. Et L'Art à l'Hôpital invite au festival de One Man Show, Seul et Seules en scène. Et le Molière du Seul en scène, auparavant appelé Molière du One Man Show ou spectacle de sketch, récompense la performance d'un comédien ou d'une comédienne dans un spectacle solo depuis la troisième cérémonie en 1989, mais à nouveau en 2007, sous son appellation actuelle Molière Seul en scène.
Vous donc on voit bien que la DGLFLF a bien travaillé.
Ou bien les locuteurs tout seuls se débrouillent très bien. Prenons maintenant Showcase. Showcase, en anglais, vitrine. Les experts ont tâtonné pas mal de temps. Ils ont hésité entre avant-goût, bonne feuille, démonstration, échantillon, extrait, miniature, prestation promotionnelle. Et ils se sont arrêtés sur présentation promotionnelle, abrégée en présentation. Et ils n'ont pas mis de définition parce que ça allait de soi. Ceci dans le domaine des arts de la scène. Dans celui de la mode, un showcase, c'est un défilé. Nous pourrions faire le même exercice avec le terme « casting » publié en 2005 et traduit par « audition ». Et si vous n'avez pas besoin de chercher la traduction de « casting director » car vous dites déjà « régisseur de distribution », ni celle de « guest star » car vous employez « vedette invité ».
Rarement.
Oui, mais quand même. Vous aurez plaisir à découvrir dans France Terme que vous avez bien entendu téléchargé dans votre téléphone portable.
Vous me surveillez.
Vous aurez plaisir à découvrir des métiers que Jean-Michel Ribes connaît, lui, depuis toujours, comme ripper ou cintrier. Mais ne cherchez pas sketch, car c'est un emprunt lexicalisé. Il est entré dans tous les dictionnaires sans équivalent français. Et la commission n'a donc pas cherché à remplacer par un terme équivalent en français. Vous m'avez laissé 3 minutes seul en scène. Maintenant, c'est à vous de faire le show.
Merci Pierrette.
Pascal.
Merci beaucoup et on va voir avec Jean-Michel Ribes ce que veut dire ripper. Alors, ripper.
Ripper, c'est quelqu'un sur un plateau de cinéma qui apporte les choses, qui pousse les grues, qui est quelqu'un qui est une sorte de machiniste.
Bravo. Et cintrier, c'est les
cintrier,
cintres.
Cintrier, c'est pour les cintres. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec votre brillante
Pierrette.
Non, pas du tout. Parce que je crois justement d'abord que les langues s'enrichissent en se multipliant dans des langages complexes, mais je crois qu'au contraire de ce qu'elles pensent, one man show, showbiz et casting sont devenus des mots français. Et ce ne sont pas les Anglais qui viennent nous pervertir. C'est nous qui les prenons et qui en faisons des mots français. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que cette espèce de... Parce que représentation, etc., c'est quand même très lourd, très ennuyeux, etc. Tant mieux s'il y a des mots vifs, un peu sexy et qui claquent. Voilà, on leur en a mis pas mal. Hein. Rendez-vous, machin, dans la langue française, dans la langue anglaise. Voilà.
C'est un échange entre ouais, les langues. Mais quel sens pour vous à la francophonie? C'est quoi? C'est une défense du français? C'est une promotion du français? C'est un usage du français? Comment vous définiriez ce mot de francophonie?
La francophonie, je pense que avant tout, avant d'être une langue, c'est un état d'esprit, ça devrait être la continuation des Lumières. La francophonie, c'est de faire passer une civilisation humaniste. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est finalement l'âme du meilleur de la France, la francophonie. C'est pas forcément un exercice grammatical.
Donc c'est la langue et c'est le métissage qu'elle entraîne.
Non, mais
aussi.
La langue n'existe pas si la langue n'est pas porteuse d'une âme. C'est l'âme de la langue. Et l'âme de la langue, normalement, ça devrait être ce qu'il y a de plus beau en France, de Montaigne à Hugo, etc.
Merci Jean-Michel Ribes. Issue de secours, livre conçu et écrit avec Fabienne Pascot, édité
très bon écrivain.
Chez Actes Sud. Et le texte de votre dernier spectacle dont on n'a pas eu le temps de parler, Palace sur scène, écrit avec Jean-Marie Gouriot, qui est aussi édité chez Actes Sud Papier. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Ludivine Amado à la réalisation. Merci à vous et à demain.